rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent parce que vous avez rendez-vous avec nous une soirée énervée, toujours en deux temps et à deux vitesses pour cette saison. Première partie, l'actualité et la musique live. Deuxième heure, les archives extraordinaires de France Inter. L'actu ce soir, c'est Algorithme dans la peau. Au moment où sur le plan culturel, le ministère de la Culture veut imposer aux plateformes américaines de financer la création française et au moment où sur le plan de l'emploi, eh bien la loi d'orientation et des mobilités repense le statut de ceux qui travaillent dans les plateformes comme Uber ou Deliveroo. Google, Apple, Facebook, Amazon, Netflix, Uber, etc. Que faut-il craindre de la montée de ces géants du numérique ? Benoît, pas mal de livres sortent sur le sujet en cette rentrée.
Oui, on a sélectionné deux. Le premier, celui de Gaspard Koenig, qui publie « La fin de l'individu », soit le voyage d'un philosophe libéral au pays de l'intelligence artificielle et qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Celui de Benoît Berthelot, journaliste au magazine économique Capital, ici présent aussi, qui a mené 3 ans d'enquête dans la machine impitoyable du géant Amazon. Le titre de son enquête, « Le monde selon Amazon », aux éditions donc, du Cherche Midi. Et puis, il y a le magazine Cash Investigation qui s'y intéresse aussi. Le titre, « Au secours, mon patron est un algorithme », une enquête signée Sandrine Rigaud qui est présente ici aussi. Et puisqu'il est question d'enjeux numériques, on a convié Marie Turcan, la rédactrice en chef du site d'information, la référence sur l'actualité du numérique, Numérama.
Sur le plan musical ce soir, Marion Guilbeau, pour finir cette première partie, ce sera...
Pas certainement pas la voix d'un algorithme, mais d'un héros de la pop britannique.
Un héros. D'accord,
voilà.
Très bien. Parfait, vous êtes sur France Inter.
Voilà, tout va bien. Non, le britannique Jack Pennat est de retour. Ça fait 10 ans qu'on n'avait pas entendu sa voix. Il va être en live à la fin de l'émission.
Et puis, autre temps, autre parole, ce sera le NRV La Suite. France Inter plus d'interception ce soir. Le magazine hebdomadaire de grands reportages de la rédaction fête ses 20 ans. Au programme, un interception d'exception. Victime-agresseur, l'étonnant dialogue, c'est signé Claire Chaudière, qui avait reçu le prix Alexandre Varenne Radio en 2009. Allez, le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et on commence par vous, Gaspard Koenig. Vous signez « La fin de l'individu », c'est le voyage d'un philosophe libéral au pays de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui a motivé ce long voyage à la recherche du Centre mondial de l'intelligence artificielle qui n'existe pas ?
D'abord, pour un philosophe, l'intelligence artificielle, c'est intéressant parce que depuis Leibniz, on rêve d'avoir une sorte de système parfait où l'on pourrait résoudre tous les problèmes en calculant et non pas en raisonnant ou en argumentant. La deuxième chose que je voulais résoudre, c'est un peu la question posée par Yuval Harari à la fin d'Homo Deus, qui dit, au fond, à mesure que les algorithmes nous connaissent nous-mêmes mieux que nous nous connaissons et qui peuvent nous fournir des informations sur le monde extérieur plus performantes et plus efficaces que celles auxquelles nous n'aurons jamais accès, eh bien, nous allons peu à peu déléguer notre capacité de décision à la machine, tout simplement parce que nous allons être convaincus par ses bons résultats. D'ailleurs, très peu d'entre nous prennent encore des cartes routières pour se diriger dans la ville. On utilise tous Google Maps.
Je confirme.
Waze. Et donc, peu à peu, l'individu va abandonner son autonomie. Et cette autonomie était peut-être une fiction, mais c'était au moins la fiction sur laquelle se fondaient nos sociétés globalement libérales depuis 3 siècles, où l'individu est réputé autonome, responsable. Et si on abandonne cette fiction, ça change énormément de choses. Ça change la conception du droit, ça change la conception du marché, ça change la conception de la politique. Et donc, j'ai été fidèle un peu à la méthode que je poursuis depuis 3 livres maintenant. J'ai été sur le terrain, donc j'ai fait un très long reportage aux États-Unis, en Chine, en Israël, au Danemark, au Royaume-Uni, pour essayer de comprendre qui étaient ces gens, ce qu'ils faisaient, discuter avec eux, à la fois des chercheurs, des entrepreneurs, des investisseurs, des magiciens, des artistes.
Enfin, ouais, des chercheurs, informaticiens.
Tout ce que je pouvais trouver, parce que honnêtement, c'est aussi très compliqué à naviguer comme monde. Et au fond, les questions, les grandes questions métaphysiques ou un peu sensationnelles dont la presse nous parle au sujet de l'IA, m'ont rapidement paru un peu très très exagérées et au fond pas très pressantes. Est-ce que la machine va un jour s'emparer du monde, tous nous détruire ? La fin du travail, qui me semble aussi très exagérée pour des raisons que je développe. En revanche, la question d'Harari sur l'autonomie est, je pense, absolument fondamentale, non pas par rapport à l'IA qui, en tant que technologie, est neutre, mais dans le contexte sociopolitique dans lequel est utilisée l'IA aujourd'hui, utilitariste, en Californie et dans le monde occidental, collectiviste, disons, en Chine, qui crée un système de nudge, c'est un peu intraduisible en français, c'est une incitation, une manière de vous pousser gentiment à prendre une décision, qui devient de plus en plus irrésistible. Et effectivement, du coup, on questionne, est-ce que l'individu est encore responsable juridiquement ? Et donc, le Parlement européen propose d'inventer, par exemple, la personnalité juridique du robot, puisque si c'est la machine qui a pris la décision, c'est plus nous. De même, pourquoi est-ce qu'on va voter ? Puisqu'un algorithme choisira beaucoup mieux que nous
bien entendu,
les politiques
en
publiques,
fonction de ce que l'on consomme et de ce qu'il en est.
Et la logique qui est logique de Google Maps à laquelle vous êtes habitué, je vais les retrouver pour les sites de rencontres, les sites de dating, ça c'est intéressant de parler aux Chinois, ils vous disent, bah maintenant on va pouvoir matcher les gens les uns avec les autres, d'ailleurs on le voit, ça marche, c'est-à-dire que l'expérience vous montre qu'effectivement le taux de gens qui restent en couple est supérieur au hasard, entre guillemets, de la vie. C'est pareil pour la recherche d'emploi, avec des entreprises qui vous prennent toutes vos données, qui vous disent vous n'avez même pas besoin de candidater pour un job ou un autre, mais en fonction de qui vous êtes et de l'environnement dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui, eh ben on va vous donner la meilleure sollicitation.
Ça, vous avez fait
ça où ? Ça, j'ai vu à Los Angeles, par exemple, sur le marché du travail, j'ai vu ça à Los Angeles, sur les sites de rencontres, j'ai vu ça en Chine, mais aussi à Paris, en sachant que ce sont des systèmes qui fonctionnent toujours en fonction du groupe. Et c'est pour ça que ça trouble le libéral que je suis. Ce sont des systèmes qui sont vraiment pas du tout individualistes et qui vous donnent non pas la meilleure solution pour vous, mais la meilleure solution pour vous dans un groupe. J'avais été frappé par une rencontre d'un chercheur à Stanford qui était très fier de battre Google Maps, en disant « moi je vais plus vite que Google Maps parce que ça fait 30 ans que je suis à Stanford et je connais tellement bien le coin que je peux prendre la meilleure route ». Mais en fait, cet homme se comporte de manière parfaitement égoïste, parce que si c'est une route que n'indique pas Google Maps, c'est-à-dire que c'est une route qui va créer davantage d'embouteillages que s'il avait suivi celle recommandée par l'algorithme. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que cette personne est condamnable ? Est-ce qu'un jour, quand il y aura des voitures autonomes, on lui interdira de prendre une route divergente, parce qu'on lui dira c'est un égoïsme insupportable, voilà. Ou est-ce que, au contraire, c'est le héros qui résiste à la puissance de nage de l'algorithme et qui essaye de faire marcher son propre cerveau?
Alors, vous citez Peter Thiel, on dit comme ça?
Peter Thiel, je pense.
Thiel, qui est entrepreneur libertarien, qui dit que l'intelligence artificielle est communiste. Ça a dû vous révulser.
Non, mais c'est un peu le
Sparkening.
Alors d'abord, Peter Thiel est intéressant parce que c'est un des rares tycoons de la vallée qui est vraiment cultivé. Quand vous entrez dans son bureau, il y a des étagères entières de livres. On tombe dans la salle d'attente sur en français dans le texte, en GF, Pascal, le discours sur la condition des grands.
Quelle mise en scène.
Je sais pas si c'était pour moi, mais enfin, en tout cas, c'était une IA qui avait repéré ma sensibilité.
Bien sûr.
Mélancolique. Mais donc, communiste au sens, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est que ce sont des systèmes qui fonctionnent pour le groupe. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si ce que cherche Facebook, c'est la community. Parce que les produits qu'ils sortent sont adaptés à une communauté, alors une communauté qui n'est plus du tout la communauté de l'État-nation, qui n'est plus renfermée dans des frontières physiques, mais qui néanmoins fonctionne comme un groupe et qui ne peut fonctionner que comme un groupe. Et qu'on voit évidemment ensuite l'usage qu'en fait la Chine, qui développe ces technologies sans limite, parce que précisément elles correspondent à son modèle de société, ou à la fois avec une très forte fluidité entre le privé et le public, l'idée de construire une sorte de lac de données dont tout le monde pourrait bénéficier, une hiérarchisation sociale très forte et une norme surtout à laquelle on ne peut plus échapper puisque c'est la norme statistique que nous produisons nous-mêmes. Et donc ce sont des systèmes qui génèrent en ce sens une forme de servitude qui est une servitude volontaire.
Jusqu'où ils vont en Chine ?
Moi j'avais été frappé quand j'avais été voir par exemple, j'ai mis l'exemple qui me vient en tête, mais d'abord ce qui est très agréable avec les Chinois c'est qu'ils sont très francs. Donc j'ai été voir des gens qui font du gaming, du jeu vidéo aux États-Unis et en Chine. Et alors, aux États-Unis, ils vous disent le gaming, c'est formidable parce que ça développe la capacité cérébrale, l'interaction sociale, ça donne des opportunités aux gens, enfin, makes the world better.
Ouais, nouvelle frontière.
Et en Chine, son équivalent en Chine me disait, le gaming, c'est formidable parce que ça rend les gens addicts pour mieux les contrôler.
Et donc, cash.
Si on veut, oui. Parce que c'est pas négatif à ses yeux. Le contrôle social, le fait qu'il y ait une hiérarchie, que une société d'1,3 milliard a besoin d'un peu d'ordre pour fonctionner, est quelque chose qui est vu très positivement en Chine. Mais quelque part, il vous révèle quand vous allez là-bas la vérité un peu beaucoup plus rapidement de ces systèmes, alors que nos pays restent dans une situation très inconfortable moralement vis-à-vis de ces technologies, parce que pour la première fois depuis 3 siècles, les deux termes dont on nous avait appris qu'ils allaient ensemble, prospérité et liberté individuelle, commencent à rentrer en conflit.
Benoît Berthelot, vous comprenez le voyage qu'il a mené ?
Oui, absolument. Moi, j'ai fait ce voyage à l'échelle d'Amazon, mais qui est une société monde aussi en soi, qui a des 650 000 employés à travers le monde, énormément de sièges partout dans le monde. Et ce thème-là de l'algorithme, il peut être développé pour Amazon dans son ensemble, puisque c'est à la fois un GAFA qui fait une activité traditionnelle, vieille comme le monde, le commerce, et en même temps, elle le transforme via l'algorithme. C'est un supermarché entièrement géré par l'algorithme, dans ses relations avec les fournisseurs, dans la manière dont elle apporte le produit à ses clients. C'est aussi des salariés gérés par algorithme, classés en fonction de leurs résultats qui sont computés par des machines. Et c'est aussi d'autres applications des algorithmes à la terre entière, comme la reconnaissance faciale, comme sa plateforme de travailleurs du CLIC qui aident à organiser toutes les intelligences artificielles dans le monde. Il y a 500 000 personnes qui cliquent sur des images, qui retranscrivent des mots.
On parlera justement de ces, ben voilà, on parlera de ces personnes tout à l'heure dans la deuxième partie. Benoît. Une question, Gaspard Koenig, au philosophe libéral que vous êtes, vous remettez en question finalement dans votre livre un marché libre que par ailleurs vous pouvez défendre, et le jusqu'au bout d'un marché libre qui crée aujourd'hui ces sociétés qui crée des choses finalement, on va le voir avec le cash investigation notamment, des problèmes au niveau du salaire ou au niveau des personnels qui travaillent dans ces entreprises là. Comment vous critiquez un modèle finalement que vous défendez par ailleurs, le libre marché?
Non, pas du tout. La question c'est pas de défendre le privé contre le public. La question c'est de toujours défendre l'individu contre les formes de centralisation. Si aujourd'hui la centralisation est beaucoup plus oppressive du côté des plateformes d'IA que du côté des États, il est normal que je me tourne contre les plateformes d'IA. Et par ailleurs, ça oblige à définir un peu quel libéral on est. Est-ce qu'on est utilitariste? Est-ce qu'on pense qu'il faut maximiser le bonheur de tous? Et en quel cas, au fond, on est très confortable avec une smart city qui optimise l'ensemble des déplacements? Ou est-ce qu'on est plus du côté de celui qui s'est rebellé contre Bentham, qui est John Stuart Mill, et qui dit « Mais non, mais ce qui importe absolument, c'est la capacité pour l'individu de diverger, de sortir de la norme, de faire n'importe quoi, voire de faire des erreurs ». Et c'est pour ça que d'abord je trouve ça assez cohérent avec l'individualisme méthodologique que je défends, et que par ailleurs cette capacité de faire des erreurs est pour moi aussi un facteur de progrès. Et c'est là que c'est un peu ce qui s'est révélé au fil de cette trajectoire, et notamment en parlant avec Nassim Taleb, l'auteur d'Antifragile, qui est vraiment un grand livre, c'est que l'optimisation c'est le contraire du progrès. Et optimiser des systèmes, ça les rend immobiles, hein, et ça crée beaucoup d'entropie. À l'inverse, le progrès, il naît toujours de l'erreur. Le progrès biologique, le progrès social, le progrès culturel vient de gens qui, à un moment donné, se sont comportés de manière complètement aberrante, complètement divergente. Alors, beaucoup ont raté, mais parmi tous ceux qui ont raté, certains avaient du génie. Et c'est cela qu'une IA ne pourra jamais, justement, repérer. Parce qu'une IA, c'est pas un système qui est, qui fonctionne comme ça, dans le ciel, et qui aurait une immense intelligence et tout ça. C'est jamais que la somme de ce que l'ensemble des gens ont produit, hein, les turkers dont on parlait, des images qu'ont identifié les gens. Et donc, c'est une énorme moyenne statistique. Et évidemment, ça vous incite forcément à vous conformer à la norme, c'est-à-dire à la moyenne que vous avez vous-même produite.
Le parfum qui t'enivre trop vite, passer du rire aux larmes, c'est vite.
suite avec ce virage électro pour la voix d'Isia, un extrait de l'album qui sortira le 4 octobre prochain.
Rendez-vous.
Varum travaille lui aussi dans sa chambre. En général, la nuit, au moment où les États-Unis se réveillent et postent du travail sur la plateforme. Comme la plupart des Turkeurs, Varum s'est trouvé une spécialité. La transcription audio. Il est la petite main qui tape les sous-titres sur les vidéos publiées sur le net. Parfaitement bilingue, en 4 ans, il est devenu un expert. Ce jour-là, il ne lui faut qu'une poignée de secondes pour sous-titrer cette interview économique.
Le nouveau rendez-vous.
Vous savez de quoi ça parle ?
Non, pas vraiment. D'ailleurs, je m'en fiche.
Sur France Inter.
Tout ce que je sais, c'est que ça va me rapporter 10 centimes d'euros.
On va revenir sur cet Turker. Un journaliste de la revue Capital enquête sur Amazon, c'est Benoît Berthelot. Il est avec nous. L'équipe de Cash Investigation s'intéresse de près aux salariés de Facebook, Deliveroo, Uber et autres prestataires de Google. C'est Sandrine Rigaud. Elle est avec nous. À leur côté, Marie Turcan de Numérama et le philosophe Gaspard Koenig. Au programme ce soir, la révolution de l'intelligence artificielle et de l'algorithme en cours serait-elle en train de créer un nouveau prolétariat. Je vous pose cette question parce que tous vous évoquez Amazon Mechanical Turk et les milliers de travailleurs, ces familles turqueuses dont parlait le reportage d'Envoyé spécial en 2015. Qui peut nous expliquer ce que c'est que cette plateforme de multitâche ou de microtâche ? Sandrine Rigaud ?
Alors oui, Cash Investigation s'intéresse dans l'émission qui sera diffusée mardi prochain à l'intelligence artificielle, mais avec cet angle assez particulier. Nous nous sommes intéressés aux travailleurs derrière l'intelligence artificielle et ça a été une grande surprise pour moi de découvrir qu'il y avait des gens qui étaient payés à entraîner des intelligences artificielles. Quelques centimes d'euros, vous l'avez entendu.
Entraîner, ça veut dire quoi ?
Alors, en fait, ce qu'on appelle intelligence artificielle aujourd'hui, c'est essentiellement ce qu'on appelle la technique du machine learning. Et machine learning, c'est apprendre à la machine à partir d'exemples. On n'apprend pas la machine à exécuter une tâche, on lui apprend à partir d'exemples à répéter la même tâche. Et par exemple, si vous voulez apprendre à une voiture autonome à conduire toute seule, il faut lui apprendre ce qu'est un piéton. Et donc, il faut lui montrer un piéton sur une photo, des dizaines, des centaines, des millions, des milliards.
Des millions de piétons, parce qu'elle risque de ne pas identifier un piéton.
Exactement. Ouais. Des milliards de fois, plus la voiture verra de piétons, plus elle sera précise. Et donc aujourd'hui, il y a dans le monde des gens payés à entourer des piétons sur des images. Ils peuvent être payés un centime l'image et même c'est souvent la dizaine d'images. Donc ce sont des gens qui sont derrière leurs écrans, qui sont totalement invisibles. Ils ne sont pas regroupés dans une entreprise. Il n'y a pas de syndicat pour les défendre. Ils ne rencontrent pas de collègues et ils font ça chez eux. Ils sont précarisés, très mal payés et c'est pour ça qu'on les appelle aussi les nouveaux prolétaires des nouvelles technologies.
Mais alors on dit Turker pour Amazon Mechanical Turk, ça veut dire quoi, Benoît Berthelot ? D'où ça vient ? C'est Amazon donc qui a créé cet outil ?
Oui, absolument. Ils l'ont créé il y a quelques années déjà. Il y a 500 000 personnes, a priori, qui travaillent sur cette plateforme plus ou moins régulièrement. Et le Mechanical Turk, en fait, c'était un automate qui a été construit par un Hongrois qui était en fait une machine censément capable de jouer une partie d'échecs, mais il y avait en fait un personnage caché, une personne cachée à l'intérieur qui jouait la partie d'échecs. Donc c'est cette idée que en fait le robot, l'intelligence artificielle, mais en fait il y a un humain derrière.
Et c'est au 18e siècle.
C'est ça. Donc c'est une vieille invention qu'Amazon a repris dans son nom, d'où le nom de Turker maintenant, le Turc mécanique. Et effectivement aujourd'hui c'est des gens qui entraînent des intelligences artificielles. Pour le livre, je me suis inscrit sur la plateforme, j'ai travaillé quelques heures dessus, j'ai gagné 4 $, quelque chose comme ça. Et c'est retranscrire des tickets de caisse. Vous lisez des tickets de caisse du supermarché français, et vous réécrivez les différentes lignes du ticket de caisse. Vous ne comprenez pas pourquoi vous faites ça, mais vous gagnez un peu d'argent.
Et pourquoi vous faites ça ?
Eh bien, peut-être que c'est une entreprise qui veut traiter les notes de frais de ses salariés, et donc qui paye la plateforme pour ça. Alors vous répétez des phrases qui sont écrites, ça on peut imaginer que ça nourrit les enceintes connectées. J'ai aussi censuré des réseaux sociaux, donc je voyais des tweets de femmes qui disaient qu'elles s'étaient faites agresser, et je devais dire si c'était crédible ou pas. Donc il y a aussi de la régulation des réseaux sociaux, a priori, qui passent par cette plateforme. Enfin, absolument tout et n'importe quoi. Les voitures connectées, comme on l'a dit, c'est voilà.
Mais comment ça marche concrètement, Marie Turcan ? Il faut s'inscrire sur ces plateformes pour venir travailler pour ces plateformes ?
Ah, mais ça se passe comme le micro-travail de base. Ça, c'est pas du tout lié seulement à l'intelligence artificielle. C'est juste du travail où on n'a pas besoin d'être beaucoup qualifié et qui est très mal payé et qui est répétitif. Donc vous avez ces trois catégories là, et du coup vous touchez les gens qui ont juste besoin d'argent et qui, s'ils pouvaient faire mieux, feraient mieux. Mais il se trouve que c'est un travail comme un autre, entre guillemets. Après, ce qui est vraiment très important là, c'est que vous avez parlé de deux choses très différentes. Vous êtes en train de montrer les fantasmes derrière l'intelligence artificielle. Et c'est très important parce que je suis pas sûre qu'on l'a bien compris avec Monsieur Koenig. C'est le fantasme qu'il y a autour de l'IA aujourd'hui est gigantesque. Tout n'est pas une IA. Un tableau Excel qui automatise certaines choses, c'est pas une IA. Le nombre de startups aujourd'hui qui se lancent en disant on a une super IA qui vous propose de faire telle et telle chose, c'est pas une intelligence artificielle. Et derrière chaque intelligence artificielle qui existe ou chaque algorithme, il y a des êtres humains. Donc quand on dit il y a des entreprises qui automatisent votre CV et puis ils peuvent vous classer dans telle ou telle catégorie, c'est extrêmement problématique. C'est pas du tout une solution pour une société, en fait. Amazon l'a fait il y a quelques années. Ils ont pris les CV de toutes les personnes qu'ils avaient employées depuis 5 ans et puis ils en ont tiré une machine qui était capable de trier les CV. Et ben, devinez quoi? Les personnes qui ont été sélectionnées grâce à cette machine, c'était des hommes blancs de 50 ans parce que la majorité des employés à l'époque d'Amazon, c'était des hommes blancs de 50 ans. La machine a juste appris comme on lui a dit d'apprendre. Et du coup, ça cause énormément de soucis. Et je pense qu'il faut quand même relativiser l'impact de l'IA aujourd'hui dans notre société et sur l'individu.
Pour Cash Investigation, vous avez rencontré Dawn Carbone. Elle est américaine, elle vit dans un logement social et travaille plus de 8 heures par jour pour ses plateformes multitâches. On l'écoute.
This would be the dashboard.
Là, on peut voir que j'ai fait 6445 missions en tout.
Depuis quand ?
3 ans. Regardez, il y a 3 niveaux. Quand vous commencez chez Figure 8, vous êtes au niveau 0. Il faut répondre à plein de questions en faisant le moins d'erreurs possible. Et ensuite, vous passez au niveau 1. Et au niveau 3, vous pouvez avoir accès à tous les boulots proposés par Figure 8. Le plus difficile, c'est de trouver des tâches convenables. Et en ce moment, il n'y a pas grand-chose. Les très bons jours, je peux gagner $5 de l'heure. Et les mauvais jours, ça tourne autour de 10 cents.
Vous pensez que c'est une rémunération correcte pour ce que vous faites ?
Non. Non, pas du tout, non.
Not at all.
Comment on peut comprendre un tel retour en arrière, c'est-à-dire l'émergence d'un nouveau prolétariat, en fait, Sandrine Rigaud ? Alors même que le monde numérique nous annonce un monde meilleur.
Effectivement, ce qui est fou, c'est en fait de voir l'écart entre la sophistication de ces applications dont on dépend tous et qui ont révolutionné nos vies et le retour en arrière en termes de conditions de travail et l'émergence d'un nouveau prolétariat. Ce qui se passe, c'est un peu la division du travail. Après le taylorisme et le fordisme qui ont divisé le travail au niveau industriel dans les usines, aujourd'hui, grâce au micro-travail et grâce à Internet, grâce aux nouvelles technologies, on peut diviser le travail, mais pour les services. Et donc diviser une énorme tâche en toutes petites micro-tâches qu'on distribue à des travailleurs dans le monde et qui vont se battre pour réaliser cette tâche parce que vous pouvez aussi bien faire travailler des Indiens pour qui finalement un centime représentera une certaine somme. Et donc il y a une espèce de concurrence aujourd'hui des travailleurs dans le monde entier.
Faire d'ailleurs travailler des personnes sur des objets dont ils ne comprennent absolument pas à quoi ça sert. Par exemple, il y a le cas de cet employé qui raconte que suite à une simple tâche à exécuter, elle s'est rendue compte qu'elle venait d'apprendre à une machine, un drone, à tuer.
Alors effectivement, c'est Christy Miland, une micro-travailleuse qui travaille, elle, sur le Turc mécanique d'Amazon depuis plus de 10 ans, et donc qui a maintenant un certain recul. Et un jour, elle m'a expliqué qu'elle a pris peur parce que bon, elle faisait ses tâches de façon très automatique. L'idée, c'est d'enchaîner le plus vite possible, et on comprend pas ce qu'on fait forcément. Et elle devait identifier sur des photos aériennes, a priori de nuit, filmées dans le désert, les trajectoires de personnes qu'elle voyait. Donc elle devait essayer de deviner où la personne se trouvait dans quelques secondes. Et puis elle a fait sa tâche de façon mécanique. Et puis, la nuit, elle a réalisé que, voilà, si elle faisait ça, c'était pourquoi ? C'était certainement pour entraîner un drone à identifier des cibles. Et il faut savoir, c'est pas de la science-fiction. Parce que Google, effectivement, un programme qui s'est arrêté maintenant, mais un programme de coopération avec la défense américaine pour former ces drones. Alors, on ne sait pas si cette femme travaillait pour ce programme-là, mais il se trouve que voilà, ce qu'elle me racontait n'était
Google pas... Google en est revenu quand même.
Google en est revenu parce que en interne, des salariés se sont élevés quand ils ont appris ce qui se passait. Voilà, ils se sont élevés contre ça et Google a finalement décidé d'arrêter, de ne pas prolonger
son
contrat.
Et Amazon, ils y travaillent ?
Ils y travaillent, mais ce que vous me racontez me fait penser à autre chose. J'ai enquêté aussi sur les drones de livraison d'Amazon, qu'ils testent en ce moment à Cambridge. Et ces drones sont dotés de multiples caméras, de capteurs de chaleur, de mouvement, de radar. Et ils sont en effet capables de voir qu'une personne se trouve dans le jardin de la maison à livrer. On peut évidemment pas lui balancer le colis sur la tête. Ils reconnaissent aussi des animaux de compagnie, les chiens, un simple fil électrique tendu en travers du ciel qui empêche au drone de se poser dans le jardin de la personne à livrer. Donc effectivement, Amazon est très avancé dans la reconnaissance de tout, en fait, d'objets, de personnes, de maisons, reconnaître la maison du client à livrer. Et je suis pas du tout étonné que cette technologie soit étendue à des armes intelligentes plus tard.
Mais est-ce qu'ils peuvent identifier ces personnes dont on dit qu'elles ne ressemblent à rien ? Non, c'était une plaisanterie. Gaspard Koenig, c'est Siddharth Suré, informaticien que vous avez rencontré au centre de recherche new-yorkais de Microsoft, qui, selon vous, a le mieux étudié le phénomène des Turkers. Qu'est-ce que vous avez appris en discutant avec lui ?
Le mieux, je sais pas. D'abord, ce qui était assez intéressant, c'est qu'il travaille chez Microsoft. Donc, je veux dire, il n'est pas chercheur social en sciences sociales à Paris 4. Il est un peu dans la machine, quand même. Et il a travaillé 4 ans sur le phénomène des Turkers. Et il a jamais réussi à parler directement à Amazon, qui est censé être une compagnie. Enfin, ils font tous les deux partie des GAFAM, Microsoft et Amazon. Donc il y a quand même un secret, même vis-à-vis de leur père, qui est assez troublant. Ensuite, il était quand même beaucoup plus nuancé que ce que j'ai entendu là, parce qu'il disait, bon, bah alors certes, on peut reprocher que c'est mal payé. Bon, les gens le font volontairement, c'est un vieux débat, on parvient là-dessus. Mais aussi, ça permet à des femmes en Inde, par exemple, qui n'ont pas accès au travail parce qu'elles sont discriminées, parce qu'elles n'ont pas le droit de sortir de chez elles, de se faire un peu d'argent et de devenir plus autonomes.
Oui, c'est ce que disait Sandrine Rigaud.
Tout est possible. Ouais. J'ajouterais que, d'abord, c'est intéressant d'un point de vue épistémologique sur l'IA, c'est quand même cette idée de se rendre compte qu'il y a des gens qui travaillent derrière, parce que ça veut dire que l'IA ne produit rien par elle-même. Et quand on dit une IA a battu 20 médecins, c'est pas vrai, c'est 20 000 médecins ayant labellisé des images de cancer ont permis de battre 20 autres médecins, ce qui est tout à fait logique. Et donc ça permet quand même de mieux saisir le fait que l'IA n'est pas une espèce de magie. Et ce qui est intéressant dans le Turc mécanique aussi, c'est que on a mis 50 ans, quand le Turc mécanique est apparu au XVIIIe siècle, on a mis 50 ans à comprendre qu'il y avait un type dans le bureau, ce qui paraît quand même pas très sorcier. Napoléon Bonaparte s'est fait piéger, Edgar Poe aussi. Et donc maintenant, on en est un peu au même stade. Il faut trouver où est l'homme dans la machine. Et enfin, la dernière chose, c'est que nous sommes tous des Turkers. Nous sommes tous des Turkers au quotidien. C'est-à-dire que quand nous parlons à Alexa, pour ceux qui ont Alexa, eh bien, nous lui fournissons des éléments qui lui permettent d'améliorer ses algorithmes de traitement du langage humain. Quand nous mettons des étoiles sur des sites, quand nous acceptons des recommandations, ou même quand nous cliquons sur nos écrans, nous produisons de la data qui, retraitée et agrégée, permet de créer des systèmes d'IA et de retargeter ensuite le consommateur. Tout ça pour dire que nous sommes tous des prolétaires du numérique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de droit de propriété privée sur la donnée personnelle. Et que donc nos données sont dans la nature, qu'on les collecte de manière complètement indiscriminée, et que ceux qui en font profit ne nous en renversent rien, bien sûr. Et c'est pour ça que moi je plaide comme solution à la fois au problème du nudge, mais aussi au problème de la chaîne de valeur économique, à, comme le droit de propriété s'est étendu à toute rupture technologique, sur la terre, sur le livre, sur les brevets, à étendre le droit de propriété privée aux données personnelles pour que nous retrouvions la valeur que nous produisons tous les jours sans même nous en rendre compte et qui nous est aujourd'hui extorquée.
Ce qui créerait des énormes inégalités. Enfin, j'imagine que vous connaissez très bien les arguments contre.
C'est quoi les arguments contre, Marie Turcan ?
Sur le principe même de pouvoir monétiser ces données personnelles, déjà, ça vous oblige à rentrer dans le système et à accepter un certain monde. De surcroît, toutes les données vont pas se valoir. Les données personnelles d'une personne qui voyage sur des sites de tourisme qui a un CSP+, se monétisera beaucoup plus que quelqu'un qui est très pauvre, qui ne surfe pas beaucoup sur Internet.
Non, parce que par exemple, regardez, pardon, mais ça dépend simplement de l'environnement dans lequel vous évoluez. Par exemple, pour Waze, les données d'un chauffeur routier valent beaucoup plus que mes données à moi. Pour des sites de pour des industries pharmaceutiques, je vous dirais pas, mais pour des industries pharmaceutiques,
un bon contre-exemple.
Pour les industries pharmaceutiques, quelqu'un qui est extrêmement malade et qui a pas beaucoup de revenus vaut beaucoup plus que moi, qui est peut-être davantage de revenus mais suis en bonne santé.
Et les sites de rencontre, justement,
on voit que quand on est moche et qu'on vit au fin fond d'une forêt,
on est moins mis en avant par rapport aux autres, bien sûr.
Mais
quand on est une femme jeune, on est plus mis en avant par rapport aux femmes âgées.
Là, on parle de la valeur de la donnée produite. Et ce que je dis, c'est que la valeur de la donnée produite ne dépend pas de votre niveau de revenu, mais dépend de l'environnement dans lequel vous êtes et de avec qui vous souhaitez le partager. Et que deuxièmement, le droit de propriété, c'est pour moi le point le plus important, c'est certainement pas seulement la monétisation, et la monétisation en est finalement un côté relativement accessoire. C'est aussi la possibilité de ne pas partager. C'est la possibilité de retenir. Parce que quand vous avez une maison, personne ne vous force à la mettre sur le marché. C'est ça la force du droit de propriété, c'est il y a le fructus, mais il y a aussi l'abusus. Vous en faites ce que vous voulez, y compris la détruire. Et quand on a le droit de propriété sur ces données, on peut les conserver par-devers soi, et accepter de, et si vous voulez, on demandera à ce moment-là aux plateformes de cliquer sur nos propres conditions d'utilisation que nous aurons nous-mêmes construites.
Dans quel monde vous pouvez vous affranchir de ça ?
Comment ?
Dans quel monde vous imaginez que vous pouvez vous passer aujourd'hui des GAFA ?
Et non, mais par exemple, moi je serais...
S'il y en a qui les vendent et que moi je ne veux pas les vendre,
oui,
vous pensez que les GAFA vont me dire ce sera moi leur priorité ?
Mais non, mais ça, c'est contractuel, c'est de la négociation. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a un droit de propriété sur les GAFA, soit vous utilisez Facebook, sur les données, pardon. Et là, s'il y en a déjà un sur les GAFA, soit vous utilisez Facebook et vous dites, oh ben moi, c'est parfait, c'est le monde de la transparence, je donne tout, etc. Mais en échange, j'ai bien le droit de récupérer un peu de toute l'énorme fortune que produit Facebook avec ses data. Ou bien, j'utilise Facebook, mais j'utilise uniquement le service. Et alors, je ne veux pas que Facebook fasse la moindre utilisation de mes données.
Bah, vous ne pouvez pas utiliser Facebook dans ce cas-là.
Et bah, oui,
Facebook est basé uniquement...
Non, mais dans ce cas-là, vous payez.
Vous payez quoi?
Vous payez Facebook. Parce que là, vous devenez un utilisateur, mais comme quand vous payez votre baguette de pain.
Bon,
vous payez l'utilisation de Facebook. Voilà.
Oui, non,
ça va dans les deux sens. C'est du coup, ça s'appelle du contrat, du marché et du droit de propriété. Et je pense qu'avec le droit de propriété a toujours été, je rappelle, une conquête émancipatrice, contrairement à ce que pense Thomas Piketty. Et ça vaut aujourd'hui encore plus dans le monde digital.
Oui, c'est un problème fondamental qui est le prix qu'on nous donne. On dit souvent avec les services des GAFA, quand c'est gratuit, vous êtes le produit. Il y a une étude toute récente, je crois qu'elle chiffre combien seraient prêts à payer les gens pour récupérer leurs données d'un service. Et c'était Amazon, je crois, pour lequel les gens étaient prêts à payer le plus. Amazon, ils se targuent d'avoir des données sur les gens qui sont les meilleures données possibles, puisque c'est la vérité de ce que vous avez dépensé avec votre porte-monnaie, alors que Facebook, c'est comment vous voulez paraître, Twitter, c'est comment quelle image vous voulez donner de vous, etc. Donc, elles valent extrêmement cher. Effectivement, dans le cas d'Amazon, quelqu'un qui achète... sur Amazon, une montre de luxe ou du champagne, ces données-là vont être revendues, on l'ignore complètement, mais elles vont être revendues à d'autres sociétés de champagne qui veulent faire de la publicité partout sur Internet, pas seulement sur Amazon, mais partout sur Internet, pour du champagne ou d'autres articles de luxe. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'Amazon un jour offrira, par exemple, l'abonnement Prime aux gens qui acceptent de laisser leurs données et les autres devront payer en fonction de ce qu'ils valent ? On peut tout imaginer, mais c'est clair que c'est un thème dans lequel il va falloir revenir dessus, oui. Casio, playing on my heart just like a Casio, breaking it apart so you can let it go, with another year that's not original, I'll send a call, alright let's go now. Back to my vehicle. They're just gonna tell you that I wasn't you. And I just wanna tell you this is how I feel. I know you feel, I know you feel it.
replonger dans l'esprit funk des années 80 avec le collectif londonien Jungle.
Lui, c'est Jean. Il vient de découvrir Netflix et c'est exactement ce qu'il attendait.
Vous écoutez le nouveau rendez-vous de Laurent Goumard.
Comment taxer une entreprise comme Google ou Netflix ou une autre dans un pays où elle fait réellement des affaires, du business?
Les géants du numérique doivent partager la valeur qui est créée par les contenus.
Sur cette fameuse taxe numérique française.
La fameuse taxe GAFA.
Je crois qu'on a trouvé un très bon accord.
Il nous faut réinventer notre modèle au service de la création et de la diversité culturelle.
Sur France Inter.
Sur France Inter. Elle est belle, la voix d'Alexa.
Ou moi, j'aimerais bien. Moi, j'aimerais bien avoir la voix. Bah, la voix Laurent, ça serait parfait.
Après, le plan social, on en a parlé tout à l'heure, et le versant économique, on s'attaque tout de suite au volet culturel. Le gouvernement français tente de gérer la nouvelle concurrence numérique avec la taxe GAFA. On va en parler, la loi pour l'audiovisuel. Est-ce que la France peut conserver son modèle culturel face aux géants du numérique? On en parle ce soir avec le journaliste Benoît Berthelot de Capital, le philosophe Gaspard Koenig, Sandrine Rigaud, qui est journaliste à Cache Investigation, et la rédactrice en chef de Numérama, Marie Turcan. La taxe GAFA, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'outil est opérant? Benoît Berthelot?
Moi, je parle encore une fois de l'exemple d'Amazon sur lequel j'ai travaillé. Dans leur cas, ils ont ce qu'on appelle une marketplace, c'est-à-dire des entreprises, des PME jusqu'à des grands groupes, payent une commission pour que leurs produits soient en vente sur Amazon. Commission d'en moyenne 15%. Ça, c'est vraiment du cash pour Amazon. C'est une très grosse source de revenus. Et jusqu'ici, et encore aujourd'hui, il est centralisé au Luxembourg. Comme toutes les activités les plus rentables d'Amazon, on peut penser au cloud ou à la publicité. Moi, j'observe qu'avec cette taxe GAFA, c'est une activité qui va être taxée à 3%. C'est un chiffre d'affaires qu'on ne connaît pas aujourd'hui. On ne sait pas combien Amazon gagne en France avec cette marketplace. Ils vont être obligés de le dire, ils vont être taxés, donc ça va être en tout cas immédiatement opérant. Après, est-ce qu'il va y avoir des effets pervers à l'avenir? Ils vont évidemment combattre cette taxe. Ils ont annoncé qu'ils allaient augmenter de 3% les commissions dont on parle, c'est sûr que ça va pénaliser quelques entreprises qui vendent sur Amazon, ça va aussi pénaliser Amazon qui sera un peu moins compétitif que d'autres. Donc, dans ce cas, et aussi dans le cas de la publicité pour Google et Facebook, ces activités-là vont aussi être taxées à 3%, moi, je trouve que c'est une sorte de sparadrap, une sorte de premier geste qui entame le débat, on va dire, mais en attendant que cette fameuse accord soit trouvé entre les 192 pays de l'OCDE qui échangent sur ce thème pour une bonne taxation mondiale.
Marie Turcan. Oui, c'est ça. La France a dit que cette taxe GAFA était une mesure provisoire en attendant que l'Europe, en tout cas l'Union européenne déjà, prenne des mesures de manière globale, parce que la France toute seule, elle peut brandir son drapeau et sa Marianne, mais ça va pas durer très très longtemps en fait. Donc l'idée est intéressante parce que, et puis en plus ça fait un espèce de coup de com assez sympa où on peut dire regardez le français lutte contre les méchants américains. Mais que sur certains points, pas sur tous évidemment. Mais on attend des lois beaucoup plus importantes. Après, on a vu que l'Union européenne avait déjà réussi à faire plier ou en tout cas à donner quelques amendes un petit peu plus importantes ces derniers temps, notamment via Margrethe Vestager de la Commission européenne. Donc ça commence. Je suis pas sûre que ça les effraie énormément.
Gaspard Koenig.
Mais d'abord,
le libéral.
D'abord, je rebondis un peu sur Margrethe Vestager, qui pour moi est vraiment une idole politique. J'ai rencontré au cours de ce reportage.
Vous la citez effectivement.
Elle a vraiment, pour moi, absolument tout compris à la manière dont l'IA s'organise. C'est la seule, au fond, autorité au monde qui a vraiment réussi à faire plier, enfin en tout cas à imposer des amendes véritables de plusieurs milliards de dollars aux entreprises sur des bases conceptuelles assez claires qui sont et assez saines, qui sont les bases de l'antitrust, base de position de monopole. Elle n'est pas du tout. Les histoires de taxes, ça concerne beaucoup moins. Et je suis très heureux qu'elle soit reconduite dans la nouvelle commission en ayant la concurrence et le numérique, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment là que ça se passe. Et j'en profite pour dire que j'étais quand même aussi assez déstabilisé. On parle de cette taxe, mais comme Marie vient de le dire, c'est pas les États-nations qui peuvent résoudre ce genre de problème aujourd'hui. Ça ne passe plus au niveau des États-nations. J'étais quand même assez effaré quand j'ai rencontré l'ambassadeur du Danemark au GAFA. Donc c'est le seul pays souverain qui a nommé un ambassadeur au GAFA, donc reconnaissant implicitement que les GAFA sont une sorte de puissance souveraine. Et surtout, les anecdotes qu'il raconte montrent à quel point il a finalement peu d'accès et peu d'influence sur ces entreprises qui fonctionnent encore une fois par communauté qui dépasse complètement les États-nations. Et donc ça va être l'occasion de réinventer, via l'Union européenne peut-être, mais de manière plus large, une forme, on peut rêver, je sais qu'on en est très très loin, mais une forme de nouveau cosmopolitisme, parce que ces sujets-là, de gouvernance des data, comme l'environnement, comme le nucléaire, ne peuvent être réglés qu'au niveau mondial.
Et vous dites même que ça pourrait être les communes dans votre livre qui pourraient avoir un rôle. Mais Sandrine Rigaud, ça on parle sur le plan d'une taxe, mais au-delà des questions de taxes, est-ce que la France peut jouer un rôle, je pense notamment grâce à sa politique sociale, pour améliorer des choses pour les salariés justement de ces gros groupes? Est-ce que ça peut être aussi mis, ces gros groupes peuvent être mis à rude épreuve avec le cas français?
En ce moment, il y a la loi d'orientation des mobilités qui est en discussion, et avec un statut un petit peu à part pour les travailleurs de plateforme qui est encore en discussion. La France imposerait des chartes aux plateformes, mais c'est quelque chose de très vague. Une charte, ça n'a pas la force d'une loi. Aujourd'hui, il faut peut-être voir ce qui vient des États-Unis, puisque la Californie vient de voter, ça doit être encore confirmé, mais le Sénat a voté en tout cas une loi qui obligeait les plateformes à salarier les travailleurs ubérisés. Ça c'est quand
qui
même...
Qui jusqu'à présent était complètement indépendant.
Totalement, considéré comme indépendant, avec en France des statuts par exemple d'auto-entrepreneur. Mais effectivement, il faut voir ce que ça va donner, parce que ça va effectivement représenter une augmentation des charges pour ces entreprises. Est-ce qu'elles vont décider de quitter la Californie, parce qu'elles font souvent du chantage à l'emploi? Est-ce qu'elles vont s'adapter finalement? C'est intéressant de voir ce qui va arriver là dans les prochains mois en Californie.
Ce qui est drôle, c'est qu'en France, là à Paris en ce moment, c'est un peu l'inverse qui se passe. C'est la législation et pas le juridique qui réussit à imposer aux entreprises de trottinettes électroniques que vous voyez en libre-service, qui avant étaient rechargées par des chargeurs, auto-entrepreneurs extrêmement précarisés. Et maintenant, la mairie de Paris a dit, en fait, dans un mois, on n'en sélectionnera que 3 des entreprises, ou que 2. Alors que là, en ce moment, il y en a 10, 11. Et donc, elles ont toutes, là, ces dernières semaines, décidé de mettre fin à leur partenariat avec ces auto-entrepreneurs chargeurs pour aller vers des choses un peu plus classiques, comme de l'intérim. Donc, pour le coup, on remarque que la mairie de Paris a une force sur les startups, et c'est un peu la première fois que je vois les startups américaines montrer patte blanche, en tout cas.
Alors, autre effet de résistance de l'État français, c'est la loi audiovisuelle qui impose à ces plateformes de produire du contenu, de faire travailler les créateurs français. Qu'est-ce que vous en pensez, par exemple, la loi qui obligerait un opérateur comme Netflix ou Amazon Prime à produire du contenu audiovisuel français? C'est une bonne chose, Marie Turcan?
Ça, c'est pas à moi de juger, mais en tout cas, il y a en ce moment une loi qui est en train de passer au niveau européen, où ils sont obligés d'avoir 30% de contenu européen sur leur plateforme, déjà de une. De deux, en fait, Netflix fait quand même déjà pas mal de produits en France et donne des moyens. On a plus un problème du côté création et je dirais pas qualité, mais en tout cas réussir à la fin le produit fini, qui fait qu'on remarque que les plateformes étaient censées être un peu les sauveurs. Amazon, Netflix, c'est super. Moi, je connais beaucoup de scénaristes français qui pensaient que c'était enfin l'Eldorado. On allait enfin réussir à produire des choses un peu audacieuses. Et en fait, pas trop. On remarque que Netflix a sorti la 3 séries. Il y en a d'autres en préparation, mais il y a eu beaucoup de déceptions en ce moment. Finalement, c'est pas les grands sauveurs qu'on pensait. Et même s'ils venaient à mettre un peu d'argent en plus, en termes vraiment culturels, pas sûr que ça change vraiment le paysage.
Et puis on peut prendre aussi le cas d'Amazon, qui est intéressant parce que son implantation en France par rapport au livre, au monde de la librairie, n'a pas été aussi facile que ça. Donc il y a vraiment une résistance française en fait.
Culturellement, oui. Pour eux, c'est un pays où ils ont eu beaucoup de mal à s'implanter. Encore aujourd'hui, ils ont une part de marché de 20% alors qu'elle est de 50% aux États-Unis, en Allemagne ou en Angleterre. Effectivement, sur le plan culturel, ils ont tout de suite compris ce que c'était que l'exception culturelle française, avec les librairies indépendantes, bien sûr, le prix unique du livre qui les empêche, la loi langue qui les empêche de faire les discounts qu'ils font aux États-Unis. Il faut bien voir qu'ils font des 30% de rabais sur les livres aux États-Unis. Ça a été un instrument de leur pouvoir. Et ils vont le découvrir aussi sur les séries et sur la vidéo. Pour l'instant, ils ont fait une très navrante série franco-allemande, Deutschland, que je recommande absolument pas. Mais ils commencent à acheter des droits. Pour diffuser Roland Garros, mais bon, pour l'instant, le gros de leur investissement, c'est Le Seigneur des Anneaux, qui sera probablement la série la plus chère de l'histoire, avec 1 milliard de coût total. C'est plutôt des gros contenus américains, pour l'instant, qui sont poussés par Amazon.
Et puisqu'on parle culture, Gaspard Koenig, pour aller au bout de l'idée, vous parlez même dans votre essai de l'art sans artiste, qui va pouvoir émerger aujourd'hui avec cette intelligence artificielle.
Non, j'ai été voir, quand j'étais en Californie, j'ai été voir un compositeur qui travaille, mais d'ailleurs qui est un vieux monsieur, qui travaille depuis 40 ans, hein, parce que l'IA c'est quand même très vieux, le machine learning c'est plus récent, mais l'IA c'est très vieux, à reproduire du Bach par exemple. Donc il donne, c'est comme toujours, hein, des millions d'exemples, enfin pas des millions en l'occurrence, enfin des centaines d'exemples de pièces de Bach à la machine, il conçoit un algorithme et donc il peut créer des pièces de Bach de manière continue et constamment originale. Il fait pareil pour Chopin, et puis ensuite il va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il demande à la machine de créer ce qu'elle veut, des pièces à partir de toute la création musicale humaine. Et il fait la même chose d'ailleurs sur les peintures et les photos. Je crois que la première peinture conçue par une IA a été vendue à Sotheby's pour quelques millions d'euros très récemment. Mais ça montre, c'est des exemples qui montrent également toute la limite justement de l'IA, parce qu'elles sont encore obligées, ils sont obligés de s'appuyer sur des créations humaines. Et donc la machine crée un tableau, mais la machine crée un tableau à partir de l'histoire de l'art qui a été conçue par l'humanité. Et donc, c'est l'ambivalence toujours de ces techniques.
Juste une dernière question avant de passer à la musique, puisque justement on parle d'art, par rapport à AWS, Amazon Web Service, puisque Radio France s'en sert en fait. Ça consiste en quoi ?
Oui, c'est pas la seule entreprise.
La SNCF, Decathlon, Netflix aussi.
Ouais. Oui, mais je sais pas s'il faut être très rassuré sur ce sujet d'ailleurs, mais effectivement, Renault, la Société Générale, Airbus, l'Éducation Nationale via un prestataire stocke certaines des notes des évaluations des élèves de France sur AWS. Amazon Web Services, c'est la filiale de cloud d'Amazon, donc qui permet à des entreprises de louer à distance des serveurs pour stocker des données ou faire tourner des sites internet ou des applications. C'est la filiale la plus rentable d'Amazon, elle leur apporte plus que le commerce, 7,3 milliards l'an dernier. C'est une filiale sur laquelle ils veulent mettre, y compris le service public français, la fonction publique. Ça pose des problèmes de souveraineté avec la loi, le Cloud Act, qui permet aux renseignements américains d'accéder aux données stockées par toutes les entreprises américaines, y compris en France et en Europe. Ça vient clasher avec le règlement de protection des données européen. C'est effectivement tout un continent caché de cette entreprise dont on n'a pas conscience.
Alors, vous connaissez tous Siri et Alexia. Je vous présente tout de suite Marion Guilbeault. Elle stocke toutes les données musicales pour les reprendre en live. All right, let's have a little
rumble at the Ritz tonight. Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Marion Guilbeault.
C'est
l'heure
de mettre les casques. Voilà, ça, je pourrais l'enregistrer avec une voix automatique, en fait,
génial.
Tous les soirs. Mettez votre casque pour écouter le live.
Elle s'adresse aux invités, hein, pas aux
auditeurs.
C'est
ça, ben, même aux auditeurs.
Vous êtes encore libre chez vous de faire ce que vous voulez.
Voilà, et l'invité live aujourd'hui, c'est un personnage comme on ne peut en trouver qu'en Angleterre. Jack Peignatté, de son vrai nom, Jack Fabian, et de ceux qui, comme Paul Weller, en son temps, maîtrise la pop et la soul avec le même bonheur. C'est une sorte d'héritier de la Northern Soul, ce courant musical très britannique où des musiciens blancs reprenaient l'héritage de la Motown avec souvent des chansons fortement politiques. Alors à l'époque, on parlait pas du tout d'appropriation culturelle, mais simplement d'hommage, de respect, d'inspiration. Bref, les temps ont changé comme le chantait l'autre. Dans le cas de Jack Peignatté, on le découvre en 2007 avec un premier album absolument génial.
Il fait son timide derrière, mais c'est lui qui a composé ça.
Complètement, ça s'appelait Second Minute or Hour, cet extrait de Matini. C'était son premier album en 2007 avec cette couleur très House Martins. Alors Jack Peignatté va enchaîner avec un deuxième album, Everything is New, plus connecté cette fois-ci aux musiques du monde. Il s'est plongé dans l'afro-jazz éthiopien, la musique populaire brésilienne, bref, tout ce qui pouvait le sortir du carcan de la pop anglaise, comme a pu le faire aussi son compatriote Damon Albarn, par exemple. Et puis, après, qu'est-ce qui se passe? 10 ans de silence. Alors, qu'est-ce qu'il en a fait, ces 10 ans de silence? Est-ce que sa voix s'est enrouée? Vous allez entendre que non. Il m'a avoué tout à l'heure qu'il avait pris son temps. Ah bon, sans blague, 10 ans. Il a voyagé, il a beaucoup joué.
C'est Alain Souchon.
Écrit, ouais, un peu. C'est notre Alain Souchon britannique. Il a beaucoup joué, il a beaucoup écrit de musique sans avoir forcément besoin de l'exposer, cette musique. Il a réfléchi à quelle couleur donner à ses chansons. Voilà. Et la solution, une fois de plus, est venue du mélange, du grand mix entre la pop, c'est sa musique de cœur, et les méthodes du hip-hop. Là, pour le coup, il a travaillé avec Inflow. C'est un jeune producteur qui monte. C'est lui qui a fait le son de Michael Kiwanuka, de Danger Mouse, de Jungle, Little Sims. C'est une première chanson qu'on va écouter, une chanson qui est un peu un gospel pop. Il va la jouer en avant-première ce soir dans le énervé Jack Peignatté. It's up to you. I got lost, trying to be what I'm known. Thought it'd bring me peace,
devil is a thief. Prayer, I got caught. Prayer, trying to be a boss. Prayer, I felt hate. Prayer, didn't recognize my face. Prayer, see you come for. You are down for. All these lives we've been, only free the one you need. I need a little prayer. I need a little prayer now. I need a little prayer. I need a little prayer now. I need a little prayer. I need a little prayer. To hide, think we know who we are, but the counting of our scars. See myself and I know, I know, I know, I know, I know, I got to change. I see myself and I know, I know, I know, I know. Everything I've been. Hey! Why do you lie to me? Why do you lie to me? Why do you hide from me? When I need a little prayer, I need a little prayer now. Need a little prayer. I need a little prayer now. I need a little prayer. Prayer. Need a little prayer. Prayer. Need a little prayer.
C'est une avant-première dans le Énervé. Il est accompagné de Serena Prince et Tellila Daniel au cœur. Et donc, c'est un extrait de son nouvel album qui sortira bientôt, un jour, en novembre, en janvier. Il hésite encore, mais ça va venir bientôt.
Il a encore quelques années devant lui pour sortir.
Ouais. La prise de son ce soir est signée Alexandre Chenet et Serge Viguier. Merci beaucoup.
Merci à tous nos invités. Gaspard Koenig, je rappelle, La fin de l'individu, un philosophe au pays de l'intelligence artificielle, apparu aux éditions de l'Observatoire. Sandrine Rigaud, Au secours, mon patron est un algorithme. C'est programmé le 24 septembre sur France 2 dans Cash Investigation. Benoît Berthelot, Le monde selon Amazon, c'est au Cherche Midi. Et enfin, Marie Turcan, on vous retrouve dans Numérama. Merci à vous quatre.
Merci.
C'était le NRV première partie. On va se retrouver dans 15 minutes pour le NRV la suite pour plus de France Inter. Demain, au programme, il paraît que ce sera une émission complot.
Oui, nous ne nous avons pas prévenu, car nous savions qu'une taupe se trouvait parmi vous.
Vous parlez de Stéphane Bern ?
Oui. Les lions noirs sont comme les scientologues, ils adorent recruter chez les people.
Complot, fake news, des armes politiques pour une nouvelle façon de gouverner. En live, Marion.
Et on va retrouver notre héros, pas notre Néro, mais notre héros de la nouvelle chanson française, c'est Teamed Up.
Le nouveau rendez-vous, vous le savez, c'est deux fois plus de chances de nous écouter dès 18h sur franceinter.fr et en podcast, ou alors 22h minuit à l'antenne, comme tout le monde. Le NRV, surtout, c'est Marion Lelay à la réalisation. Préparation, programmation, Virginie Rouzic et Clémence Diligent. Je vous donne rendez-vous dans 15 minutes après le journal. Gros plan sur Interception qui fête ses 20 ans. C'est au programme du NRV la suite, France Inter+. À tout de suite.
Rendez-vous.